Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons être d'une certaine façon dans l'actualité, même si nous allons parler d'histoire. Nous avons voulu l'Amérique, eh bien nous l'aurons, la voilà. L'Amérique qui nous est racontée dans un ouvrage paru aux éditions Ça et là, un petit éditeur dont on parle assez rarement finalement dans cette chronique, avec donc un ouvrage de John Derf, Bach Derf, quelqu'un que nous avons rencontré précédemment pour un certain nombre de récits assez marquants, je dois dire. Et ici, il va être question de Kent State. Alors, pour les amateurs donc d'histoire des États-Unis, ça doit forcément dire quelque chose. Et le sous-titre, c'est « Quatre morts dans l'Ohio ». On va donc s'arrêter précisément à tout ce qui nous est raconté ici parce que c'est en lien avec une actualité récente. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle, mais avant d'y plonger, eh bien, peut-être présentez-nous l'auteur, s'il vous plaît, Thierry.
Oui, c'est un auteur qu'on apprécie beaucoup, un auteur singulier, dont l'univers graphique est très, très caractéristique d'un certain underground américain. C'est quelqu'un qui n'a pas une vie banale, puisque l'ouvrage, il l'a vraiment révélé au public français, s'appelle « Mon ami Dahmer ».
Il a le malheur d'habiter dans l'Ohio, justement, hein, Def Park Def.
Notre auteur a été camarade de classe d'un tueur en série.
Le cannibale de Milwaukee, même.
Sympathique surnom.
Ah oui, ça fait envie.
C'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie qui l'a amené, et c'est peut-être son ouvrage le plus drôle, qui s'appelle Trash. C'est un parcours de vie qui l'a amené à être éboueur, à côtoyer les rebuts de la société sous toutes leurs formes, sans aucune nuance péjorative de ma part. C'est quelqu'un qui, justement, qui s'intéresse à ce qui n'intéresse pas les autres. Le traitement des ordures, ceux qui s'en occupent, ceux qui en sont chargés, les rapports de pouvoir, l'oppresseur, l'opprimé. C'est un ouvrage très révélateur sur le climat social aux États-Unis de ce point de vue. C'est quelqu'un qui a une formation, une solide formation théorique, et ça va éclater dans ce dernier album, Kent State. C'est quelqu'un qui a fait des études de journalisme. Alors, comme je le disais, ses premiers ouvrages étaient plutôt dans l'autofiction, en fait. Il racontait également ses passions musicales dans un ouvrage qui s'appelle Punk Rock et Mobile Home. Rien que le titre met en joie.
Ça fait rêver, là encore.
Là encore, une certaine forme d'alternative, mais musicale. C'est quelqu'un dont on peut lire maintenant la réédition en français des True Stories. Il a publié dans les journaux pendant une vingtaine d'années des histoires courtes, des instantanées, des portraits sur le vif. Des petites historiettes qui lui sont arrivées, qui témoignent à la fois de l'évolution de son dessin, parce que son dessin a beaucoup changé, et puis de l'évolution des mentalités au sens large du terme aux États-Unis. Bref, c'est un auteur très complet, mais je dirais que dans Kent State qui nous occupe aujourd'hui, il se lance, voilà, pour la première fois dans un travail qui rappelle, qui rappelle celui de Joe Sacco.
Pour vous, c'est donc de la BD documentaire, on peut dire ça.
Je pense, parce qu'il y a une partie de souvenirs d'enfance de cet auteur, puisqu'il avait 10 ans à l'époque et il vivait juste à côté du campus où s'est déroulé le drame de ce qu'on appelait l'affaire de Kent State. Il a des souvenirs directs, mais pour reconstituer ce qui s'est passé, il s'est appuyé sur les ouvrages publiés. Il a rencontré les témoins, en témoins directs en général, il a été puisé aux meilleures sources. Il a fait vraiment un travail, on peut le dire, d'historien, puisque ça nous ramène en 1970. Il s'est vraiment plongé dans une histoire qui lui est à la fois propre et qui est une histoire qui nous concerne tous et qui, vous le disiez en préambule, nous a donné envie de parler de ce livre. Il nous semble que ce livre entre en résonance avec ce que nous vivons en ce moment, la fin de règne, dans tous les sens du terme, dans toute l'acception du terme, d'un certain Donald Trump.
Revenir sur le trumpisme, c'est pas pour nous torturer, hein, mais c'est simplement peut-être pour réaliser que à la fois l'histoire se répète, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ancrées dans l'esprit ou sur le territoire américain et qui ressortent comme ça régulièrement. Alors, on va se plonger dans l'histoire qui nous concerne, là, celle de Kent State, qui est en fait une petite université.
Oui, c'est une université qui accueille des étudiants en général issus de milieux modestes. C'est une université qui monte en puissance au moment où on la découvre, où il règne un très bon esprit. C'est une université qui est agitée malgré tout par un esprit de contestation, la contre-culture et surtout ce qui est central, ce qui va déclencher le drame, c'est la guerre du Vietnam.
Alors on est en pleine guerre du Vietnam justement.
On est même à un moment où la guerre est intensifiée selon le souhait du président Nixon. Et elle est intensifiée dans le sens où ça a une répercussion sur les étudiants, parce que une très grande partie des soldats qui sont envoyés en Vietnam le sont selon le système de la conscription. Ce n'est pas une armée de métier. Et donc, beaucoup d'étudiants le deviennent ou essaient de prolonger leurs études pour échapper à la conscription, y compris des gens fort connus dont, je suis désolé, je vais déjà parler de lui, reparler de lui, un certain Donald Trump.
Tiens, il en a profité lui aussi.
Mais je ne tape pas sur, toujours sur les mêmes clous,
puisque
certains Bill Clinton aussi.
Ils s'en sont servis, donc.
On est dans l'après-hippie, l'après-mouvement Peace and Love, la contestation douce. On a le portrait d'une Amérique, on le disait, on le pensait en préambule. L'ennemi n'a même pas changé. C'est une Amérique du complot, de la paranoïa, parce que le président Nixon était quelqu'un de très peu fréquentable, je pense mentalement assez dérangé, en tout cas obsessionnel. Il voyait des complots partout, au point que l'appareil de surveillance... Américain de contre-espionnage était majoritairement dirigé, alors financièrement et puis du point de vue des compétences, il était dirigé contre l'ennemi de l'intérieur. Alors qu'à l'époque, il y avait le grand Satan soviétique, l'ennemi était à l'intérieur, c'était les gauchistes, les communistes, les communistes américains, les taupes, les agents dormants, les agitateurs, enfin... toute une rhétorique qui a été réutilisée par Donald Trump pendant son mandat et encore très récemment. Les mouvements étudiants, alors à la fois se radicalisent avec des éléments qui appellent à la violence, qui la pratiquent déjà, des agents infiltrés du FBI, bref, comme le dit un étudiant, quand on manifeste, on ne sait pas si celui qui est à notre droite est un agent du FBI ou un ultra. Ce qui crée une atmosphère qui porte à l'excès ce qui va se passer dans les événements qui nous occupent. C'est l'étincelle, ça va être une première manifestation dans le centre-ville de Kent State. Où il y aura, on va dire, des dégâts mineurs, des vitrines brisées, des actes d'incivilité, puis un premier affrontement avec la garde nationale. Alors, la garde nationale, c'est très particulier. C'est pas l'armée, on pourrait appeler ça une milice d'État. C'est des gens qui sont, on le découvre ici, en l'occurrence, qui sont des pseudo-soldats, j'allais dire, mal préparés, surmenés, surtout très mal encadrés, mais dotés d'armes de guerre. Donc, c'est donner une grenade à un enfant, en l'occurrence.
Oui, c'est pas l'armée, mais ils sont lourdement armés.
Ils ont le fusil qu'avaient les GIs pendant la guerre. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme de guerre totalement destructrice qui va être utilisée à très mauvais escient dans ce qui va être le drame de Kent State et qui va aboutir à un certain nombre de morts, de blessés, de mutilés. Un enchaînement de circonstances qui est décrit avec précision, puis une précision qui fait froid dans le dos, dans ce livre qui est un livre document qui est très impressionnant par le luxe de détails. Et puis, l'empathie qu'on éprouve envers les protagonistes qui sont décrits intimement dans les deux camps. Il n'y a pas les gentils étudiants et puis les méchants de la garde nationale. Dans les deux cas, il y a des gens qui voudraient qu'on leur fiche la paix, littéralement. Mais pour la garde nationale, c'est des gens qui sont très mal encadrés par des va-t-en-guerre ou des gens totalement incompétents. Et les étudiants, ils sont noyautés par des éléments ultra qui sont des terroristes, en tout cas qui sont désignés comme tels par l'administration. Pour les djihadistes aujourd'hui, ce seraient ces terroristes de l'époque.
Ce qui va se passer là à Kent State, donc il va y avoir 4 morts, ne va pas du tout changer les orientations de Nixon.
Au contraire, ça va même le renforcer dans l'idée que le seul moyen de mater la rébellion étudiante, c'est de faire des exemples. Dans un premier temps, d'ailleurs, l'opinion américaine est plutôt du côté de l'ordre et de la force.
Mais ça, par contre, ça va changer.
Mais comme les extrêmes se rejoignent, la situation va basculer parce qu'il y aura d'autres émeutes, d'autres morts. Et il y aura une prise de conscience qui va se faire assez rapidement. Et puis, de toute façon, va y avoir la déconfiture de la guerre du Vietnam avec sa fin absolument piteuse pour les États-Unis, puis l'affaire du Watergate. Enfin, c'est vraiment une fin de règne avec tout ce que ça comporte d'excès, puis d'excès dramatique.
Et là aussi, on peut faire peut-être quelques comparaisons, même si on n'est pas forcément dans les mêmes proportions, en tout cas actuellement. On ne sait jamais où ça peut mener.
On ne sait pas ce que ça va donner après l'élection de Joe Biden. Comment ce pays fracturé littéralement en deux va évoluer. Je prie pour que la démocratie américaine résiste.
L'occasion en tout cas pour nous d'être observateurs, attentifs, et puis de ne pas être naïfs, voilà, particulièrement. Nous vous conseillons pour ces raisons-là et pour d'autres, parce que c'est un récit tout à fait passionnant, on disait une bande dessinée documentaire, avec un dessin un peu particulier, un dessin qui correspond vraiment, vous le disiez je crois Thierry, à l'underground américain. Ce récit donc de Def Bagderf, qui s'appelle Kent State, 4 morts dans l'Ohio, c'est paru chez Ça et Là. Merci Thierry, la semaine prochaine nous changerons de registre et pourtant nous ne serons pas forcément beaucoup plus joyeux. Enfin, l'occasion de parler d'histoires humaines et c'est ce que nous aimons partager dans cette chronique. À bientôt.